I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen, même en trêve internationale. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on commencera par parler de l'Angleterre avec Philippe Auclair. Et si l'Angleterre était favorite de l'Euro, on lui posera cette question. Et on parlera aussi des sanctions attribuées à Everton qui effraient à raison et Manchester City et Chelsea. On ira ensuite en Allemagne pour parler du cas Nagelsmann et de cette Allemagne New Look, pays hôte de l'Euro 2024 qui a encore perdu face à la Turquie. Est-ce la crise? On posera la question à David Lortolari. On ira ensuite en France parler de notre bonne vieille Ligue 1. Rennes, à qui la faute après le départ de Bruno Genesio et celui probable de Florian Maurice? On essaiera de tirer le bilan de ce club qui tarde à franchir un cap. Et on terminera enfin avec l'Espagne et Ana Caro qui nous parlera de la blessure de Gavi qui a rendu furieux le FC Barcelone mais aussi du Classico féminin qui a réuni près de 40 000 personnes. On est loin d'avoir tout ça en France. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver toutes les semaines sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver toutes les émissions foot d'Eurosport. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe par un détour, par l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair qui est presque en direct de Buckingham Palace, si je ne m'abuse, Philippe, vu le décorum derrière toi.
Absolument, et évidemment avec la tasse
toujours,
de thé qui convient.
Toujours,
absolument,
qui t'accompagne toujours. À chaque fois. Philippe, avant de parler de l'Angleterre et des Three Lions qui vont... habiller ce premier sujet, on voulait revenir malgré tout sur une grosse actu qui a touché la Première Ligue vendredi dernier. C'est la sanction de 10 points attribuée à Everton pour manquement aux règles de la Première Ligue. Alors, ce n'est pas tellement sur Everton qu'on a envie de t'entendre, c'est plutôt sur les possibles sanctions qui pourraient toucher désormais Manchester City et Chelsea. On rappelle ici que Manchester City est sous enquête pour 115 infractions, alors que Everton n'en avait qu'une seule d'infraction et a été sanctionné de 10 points. On a beaucoup parlé cette semaine des possibles sanctions qui pourraient être appliquées à ces deux clubs. On a parlé de 30 points, on a parlé de relégation potentielle. Qu'en est-il réellement ?
Cyril, je suis désolé de te décevoir, je ne peux pas vraiment donner de réponse à ta question. C'est un bon début hein, pour un lundi matin. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de précédent à ce qui se passe pour Everton. Il y a d'autres clubs déjà qui ont eu des déductions de points dans l'histoire de la Première Ligue. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le processus qui a eu lieu. C'est que c'était la première fois qu'un club était puni pour ce type d'infraction à ce type de réglementation. Et que donc, on attendait bien évidemment le verdict pour savoir où la commission indépendante placerait la barre. Et la barre est placée haut. Ouais. Parce que, en fait, si tu veux, avant la décision, je pense que la fourchette maximum, la fourchette minimum, c'était une très grosse amende. Ce qui, dans le cas d'un club qui va aussi mal financièrement qu'Everton, n'a peut-être pas eu l'effet désiré, non ? Ouais. Pas tellement de l'idée. Ou 12 points, c'était le maximum. Elle est pour 10. Alors, bien évidemment, Everton fait appel de la décision. Donc, c'est une décision sujette à appel. Mais c'est placé la barre très, très haut. Même si l'infraction qui est reprochée à Everton est grave, malgré tout, Everton était entré dans le processus et avait collaboré avec la Première Ligue, parce que la Première Ligue, d'ailleurs, la commission de la Première Ligue a totalement accepté. Malgré cela, ils se prennent 10 points. Donc, quand on pense au cas de Chelsea, vous avez vu toutes les révélations qu'il y a eu sur la façon dont Chelsea, du temps d'Abramovich, se servait d'entités offshore pour faire transiter des paiements vers un tel ou vers X, Y ou Z afin d'échapper au règlement du fair play financier. Alors là, ça, c'est pas une question, c'est même pas ne pas équilibrer les comptes, c'est tricher, c'est la triche pure et simple. Ça pourrait faire très, très mal. Et je pense que là, dans le cas de Chelsea, si jamais la Première Ligue était sérieuse, je pense qu'on parle du retrait de titre, tout simplement. les titres qui ont été attribués en trichant. C'est un petit peu comme le disaient mes amis, si jamais les choses continuent comme ça, le palmarès de la Première Ligue pour les années 2000 et 2010 va ressembler au palmarès du Tour de France pour les années Armstrong. Ouais, ouais, okay. Absolument. Pour Manchester City, alors là, le problème, c'est bien évidemment le, enfin, le problème. La différence, c'est que Manchester City a à sa disposition une armada de, d'avocats ouais. payés très, très, très grassement, qu'Everton ne pouvait pas les moyens de se permettre, et que Manchester City, il va beaucoup mieux armé, je dirais, que, qu'Everton. Mais, vu la nature des infractions, si Manchester City était reconnu coupable, bien évidemment, oui, je pense qu'on doit parler de, également retrait des titres. On doit parler avec également tout ce qui est le côté financier, hein. Tout l'argent, ouais. donc amende commensurée. Je pense que parler de relégation n'est pas complètement fantaisiste.
Okay.
C'est pour te donner une idée un petit peu de l'ambiance qui en soit en Angleterre, non, mais... en ce sens qu'on se dit, ils ont, en prenant cette décision, ils ont ouvert un champ de possibilités qui, si ils n'allaient pas jusqu'au bout de leur politique actuelle et des principes qu'ils ont adoptés pour le cas d'Everton, les gens se retourneraient en disant « mais vous êtes sérieux ou quoi ?» Parce que c'est facile, vous punissez un club comme Everton, et le punissez salement parce que ça risque de coûter la place en Première Ligue à Everton. Hein, il y a un seul club, je crois qu'il soit parvenu à rester en Première Ligue après avoir, avec 4 points à ce stade de la compétition, c'était Everton, mais il y a 40 ans de ça.
Ouais, okay.
D'accord, donc avec 4 points, tu es quasiment mort. Ça, c'est une chose. Et donc, d'ailleurs, quand tu regardes le communiqué d'Everton, Everton dit très clairement, nous examinerons avec intérêt les autres ouais. décisions prises pour la Première Ligue, etc., pour des clubs qui seraient retrouvés dans des cas similaires. Et les cas ne sont pas similaires. Si jamais il y a bien culpabilité de Chelsea et de Manchester City pour ce qu'ils auraient reproché, et en particulier pour Manchester City, mais attends, on n'est pas du tout dans le même... on parle de quelqu'un qui fait un dépassement de vitesse en pleine campagne avec quelqu'un qui crée un accident en centre-ville en grillant un feu rouge. Okay. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et donc, les sanctions seraient très, 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 très fortes.
Ce que tu nous dis là, finalement, Philippe, c'est que vendredi, c'est presque un des plus grands tournants de l'histoire moderne de la Première Ligue qui a eu lieu et que ça pourra avoir des répercussions sur tous les autres clubs qui vont être beaucoup plus prudents à l'orée du mercato, oui. à l'orée des dépenses qui vont mm-hmm. beaucoup plus regarder plutôt que voilà, ce qui se passait ces dernières années avec une inflation sans trop regarder parce que, bah, on génère voilà. des revenus et puis ça le fera quoi.
Oui, absolument. Je crois que c'est une date très, très importante. Bien évidemment, tout dépend de la conclusion des enquêtes qui sont menées actuellement parce ouais. qu'on ne peut pas préjuger de ces conclusions. Et encore une fois, Manchester City a des arguments de défense qui sont... Ces arguments de défense, c'est d'abord avoir des cabinets d'avocats qui sont extrêmement coûteux, mais aussi extrêmement utiles et extrêmement efficaces. Et puis Chelsea, bien évidemment, leur défense va être, les gars, on était au courant de rien,
ouais.
nous sommes un nouveau régime, ce n'est plus Roman Abramovich, punissez Roman Abramovich si vous voulez, à la limite, retirez un titre ou deux, mais ne nous punissez pas pour ce que nous sommes maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, ne pas oublier quand même que Chelsea... Même si ce qui a fait surface la semaine passée est quelque chose qui a fait surface à cause de cette cache de documents qu'on appelle les Cyprus Leaks, hein, de Chypre donc, le club est allé volontairement vers la Première Ligue après la prise de contrôle par Clear Lake et Todd Boehly pour dire « il y a des irrégularités, okay. vous devriez regarder
okay. ».
Donc il y a quand même une différence d'attitude très ouais. importante entre Everton, qui a collaboré, Chelsea qui est allé, qui a même été proactif, et Manchester City qui a traîné, qui a tout fait pour enrayer le processus. En effet, on peut s'imaginer que ça ait des conséquences thermonucléaires, pour ouais. reprendre un mot à la mode, sur Manchester City, à la fois ce qu'ils ont accompli dans le passé, leur situation actuelle et ce qu'ils peuvent accomplir à l'avenir.
Mon cher Philippe, on va revenir un petit peu au terrain. Qui dit trêve internationale dit Three Lions. Bah, l'Angleterre continue de très bien fonctionner, mine de rien, depuis la Coupe du Monde et cette élimination en quart face aux Bleus. 9 matchs, 8 victoires, pas mal de buts marqués. Pourtant, il y a des petites critiques qui commencent à apparaître du côté de Gareth Southgate. Quelle est tout simplement l'ambiance autour de ces Three Lions aujourd'hui?
Elle est un petit peu particulière en ce sens qu'il y a... On ne ressent pas aujourd'hui la même cohésion, la même adhésion que l'on sentait au moment de l'Euro, certainement, ça c'est évident, et également avant et pendant la Coupe du Monde. Et même après, malgré la déception de cette sortie en quart face aux Bleus, on a le sentiment d'une part que Gareth Southgate, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est au poste.
Ouais.
Et on n'a pas le sentiment qu'il y a eu une progression si forte que cela, en fait, depuis la finale de l'Euro. Jusqu'à la finale de l'Euro, il fait un sans-faute. Ouais. Il fait un sans-faute dans le choix de ses joueurs, il fait un sans-faute dans les performances de l'équipe, il fait un sans-faute dans la façon dont il arrive dont il communique, dont il parvient à faire revenir l'Angleterre vers son équipe nationale, que très honnêtement, pour laquelle elle se sentait un certain désamour. Et en fait, Southgate, bon, ça a été tout simplement l'anglais préféré des Anglais pendant pas mal de temps. Ce n'est plus le cas. Il n'est pas détesté, il n'est pas haï. Mais on se pose des questions. Petit un, est-ce qu'il a la personnalité et le talent de manager nécessaire pour mener cette génération totalement exceptionnelle de joueurs anglais vers son destin, qui serait enfin une victoire pour l'équipe masculine, hein. Les féminines ont montré le chemin. Première victoire masculine depuis 1966. Parce que c'est bien beau de gagner des titres en U17, U19, U21. Il va peut-être, falloir gagner chez les seniors aussi. Et puis, il a très, très mal géré certains points de com, et en particulier la situation vis-à-vis de Jordan Henderson, qui est un sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Il nous a étonnés en ce sens que, d'une part, il fait, comme beaucoup d'entraîneurs, de sélectionneurs qui sont en place depuis un certain temps, il a tendance à se reposer sur un noyau de joueurs qui lui ont montré, qui étaient des fidèles, qui lui ont montré qu'ils donnaient tout pour la cause, etc. Donc, des joueurs comme Harry Maguire, qui continuait à sélectionner lorsqu'il était en dehors de l'équipe de Manchester United. Jordan Henderson, à qui il a quand même donné le brassard de capitaine il n'y a pas si longtemps, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on voit ce que le joueur a fait, et qui, très honnêtement, en Angleterre, est très très mal passé. Parce que Jordan Henderson, il faut se souvenir quand même que c'était un porte-parole des droits de l'homme au sein de l'équipe d'Angleterre, qui avait été très vocal, qui s'était exprimé longuement et assez éloquemment d'ailleurs, avant la Coupe du Monde en Russie, après la Coupe du Monde en Russie, avant la Coupe du Monde au Qatar. Et puis là, tout d'un coup, il décide d'aller en Arabie Saoudite, en tenant des propos d'une hypocrisie absolue, ce qui est le problème c'est pas qu'il en a un Arabie Saoudite, c'est le discours qu'il a tenu, et Gareth Southgate l'a défendu et le défend, continue de défendre et continue de l'aligner, alors que très honnêtement il y a d'une part un certain problème de communication. Alors on va dire, pourquoi est-ce qu'un joueur devrait être puni pour des décisions de carrière en équipe nationale, vaste débat, hein, mais il y a soutenir et puis soutenir. Lui, il l'a soutenu de manière, je pense, un petit peu inconsidérée et sans non nuancée. Et puis, tout simplement, sur le terrain, Jordan Henderson, dans cette équipe d'Angleterre, il a plus sa place. Quand tu vois, on parlait de la pauvreté de l'équipe d'Angleterre en milieu de terrain, tu vois qu'il y a maintenant, mais c'est de la dinguerie, quoi.
Alors, je vais y venir, parce qu'effectivement,
c'est fou.
On en parlait un petit peu la semaine passée en parlant de Cole Palmer. On va faire un état des lieux, peut-être, du réservoir de ces Three Lions, parce
c'est
que
dingue.
En France, on se gargarise d'avoir le plus grand réservoir au monde, ce qui est possible peut-être avec le Brésil. Il ne faut pas oublier l'Angleterre à la liste, parce que du milieu à l'attaque, il y a un nombre de choix qui est hallucinant.
C'est dingo. Avec des joueurs qui sont des choix évidents, Jude Bellingham, probablement le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas trop débat sur la question. Et qui a réussi exploit à le montrer avec l'équipe d'Angleterre contre l'Italie dans la victoire 3-1. Il avait été absolument extraordinaire. Declan Rice, qui confirme avec Arsenal ce qu'on savait avec West Ham. Alors bon, déjà, au niveau défensif, là, ça assure, alors qu'on disait, oh, l'Angleterre, il n'y a pas de milieu de terrain, on était obligé de mettre Jordan Henderson. Puis après, tu vois, mais qui va jouer milieu offensif? Alors là, tu te dis, attends, on va mettre qui, là? Parce qu'il y a du monde. On va mettre James Maddison, qui est le meilleur joueur de Tottenham et l'un des meilleurs joueurs de Premier League, même s'il est blessé en ce moment. On pourrait mettre Phil Foden, tiens. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Et puis tiens, le petit Jack Grealish, là, juste sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. Hein. On a le meilleur avançant de la planète en ce moment, Harry Kane, le meilleur américain avançant de la Bundesliga et d'Europe sans doute. Derrière Erling Haaland, mais dans un style complètement différent. Ah, le petit Marcus Rashford, ça va pas trop fort avec Manchester United, mais l'équipe d'Angleterre, ça assure. Bukayo Saka, là, c'est qui? On continue. Et puis bon, les jeunes qui arrivent, Cole Palmer, Rico Lewis, de Manchester City, chaque fois qu'on le voit avec les Citizens, il éblouit. Lui aussi joue 6-8-10.
Ouais.
Et on se dit, il y a dans cette équipe d'Angleterre un potentiel offensif absolument colossal. Sans précédent. J'ai dit bien sans précédent. Et la question, bien évidemment, c'est, avec un tel potentiel offensif, l'Angleterre doit être capable d'aller au bout. Et l'Angleterre doit jouer autrement. C'est surtout ça le problème.
Ouais.
Or, Mis à part ce match contre l'Italie où Jude Bellingham nous a fait un récital, c'était vraiment, je dirais pas un one-man show, on va pas aller jusque-là, mais bon, il a été l'inspirateur de cette équipe d'Angleterre. On voit des Anglais qui sont encore d'une prudence folle dans le jeu. Tu compares le Kyle Walker que tu vois avec Manchester City, voire même le Kieran Trippier que tu vois avec Newcastle. Tu compares avec ce que tu vois en équipe d'Angleterre, tu dis, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas possible. Même quand tu vois Declan Rice en équipe d'Angleterre, tu as le sentiment, tiens, il passe le ballon latéralement de nouveau, alors qu'avec Arsenal, maintenant, c'est toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et tu te crées, tu te demandes si jamais il n'y a pas quelque chose dans la façon dont Gareth Southgate conçoit son football, qui est avant tout ne pas perdre, qui est avant tout être une équipe solide, difficile à remuer, ce qui fait que dans les qualifications, c'est quasiment des sans-fautes à toutes les fois. Mais à chaque fois que tu te retrouves face à un adversaire qui est vraiment de très très haute qualité, là tu as des problèmes parce que tu lâches plus le frein à main. Or, ce dont l'Angleterre a besoin, je pense que ça, on est tous d'accord maintenant là-dessus, avec des joueurs d'une telle classe, d'une telle intelligence tactique qu'ils montrent semaine après semaine dans leur club, tu peux lâcher le frein à main, tu peux leur donner plus de liberté. Et donc, on attend Gareth Southgate sur ce plan, comme on l'attend sur le plan de la communication, ce qui s'est passé à Jordan Henderson. Et je peux te dire que ce qu'il a dit, qui vient de sortir, en fait, parce que c'était un point presse qui était sous embargo et qui vient d'être révélé, entre guillemets, par la presse anglaise ce matin, il parle de l'Angleterre futur numéro 1 mondial. Actuellement, l'Angleterre est numéro 4, hein, c'est déjà pas mal. Et en fait, ça fait 5 années que l'Angleterre est dans le top 4 mondial. C'est constance, consistance, remarquable dans les résultats. Mais ils peuvent, si jamais ils battent la Macédoine du Nord en Macédoine du Nord, match aller, c'était 7-0 pour les Anglais à Manchester, donc a priori, ça devrait le faire. Ils peuvent passer troisième de ce classement qui est publié le 30 novembre. Et alors, c'est un classement, je veux dire, ça ne donne, c'est pas un trophée, mais pour une raison ou pour une autre, c'est devenu quelque chose d'assez important, en tout cas dans le discours autour de l'équipe d'Angleterre. Et Southgate a bien été obligé de reconnaître, oui, le but, c'est d'être numéro un mondial. Mais pour être numéro un mondial, il va falloir gagner l'euro, non? Et est-ce que l'Angleterre peut gagner l'euro et être numéro un mondial? Avec ce type de jeu, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle a les joueurs pour le faire? Absolument. En fait, tu regardes les effectifs. Je pense en effet qu'au niveau richesse des effectifs, tu peux comparer. Il y a l'Angleterre et la France, puis il y a les autres. Parce que même le Brésil, en fait, c'est bien,
Peut-être,
mais
ouais.
c'est pas une génération extraordinaire. L'Argentine, qui est actuelle numéro une, bah, il leur manquera un certain joueur qui est quand même pas n'importe qui, même s'il y a une petite relève qui arrive derrière, hein. Mais tu regardes au niveau richesse des réservoirs, l'Angleterre et la France sont très très loin devant le reste du monde. Avec toutes mes excuses, bien évidemment, à nos amis espagnols, parce que je sais qu'eux diraient, oui, on a tous ces joueurs de 18-19 ans. C'est pas encore la même densité. Pas encore la même densité. Alors que l'Angleterre, quasiment à chaque saison, apporte 3-4 nouveaux noms. Et des noms, je veux dire, quand on parle de Palmer, quand on parle de Lewis, on parle de joueurs qui peuvent aller au très 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 haut niveau. C'est pas simplement de bons joueurs internationaux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Gareth Southgate, un petit peu chahuté à cause de sa communication autour en particulier de Jordan Henderson, aussi autour du futur régulateur du football britannique, on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, mais aussi par le fait que cette équipe d'Angleterre, mis à part ce match contre l'Italie, n'a pas été flambante pendant les qualifications. Elle a fait le boulot comme d'habitude, mais on attend beaucoup, beaucoup plus d'elle. Et on se pose la question, pour avoir plus de l'équipe d'Angleterre, est-ce que c'est avec Gareth Southgate qu'on l'aura?
Eh ben merci beaucoup Philippe pour ce point très complet sur l'actualité anglaise et Premier League et Three Lions. On se retrouvera évidemment dans les semaines qui viennent avec notre cup of tea pour parler de l'actualité anglaise et nous, on va passer à l'Allemagne. Allez, on enchaîne avec l'Allemagne, le pays hôte de l'Euro 2024, mais un pays un petit peu déchiré autour de sa Mannschaft. La Mannschaft battue par la Turquie à domicile sous les sifflets du stade de Berlin. On retrouve David Lortolari. David, une question toute simple. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui autour de la Mannschaft?
Salut Cyril, salut à tous. L'ambiance, pour faire une boutade pour commencer, c'est que c'est la Turquie qui était à domicile à Berlin pour ce match amical et la Turquie sera également à domicile en Allemagne très largement à l'occasion de l'Euro puisqu'elle est qualifiée. Ça veut dire aussi, très plaisanterie mise à part, ça veut dire aussi que l'Allemagne sera certes à domicile, mais qu'elle a un public qui est distancié aujourd'hui, ouais. qui est un peu en désamour, qu'il faut reconquérir. Il suffira de quelques succès, mais pour l'instant, on en est loin. On voit que l'équipe qui s'était un petit peu redressée avec Rudi Völler contre la France, d'abord ouais. l'intérim, puis un voyage intéressant en Amérique du Nord et Amérique centrale, États-Unis, Mexique, c'était pas mal. On voit que tout cela est fragile et que Nagelsmann a beaucoup de travail. C'est ce qui est dit évidemment par les éditorialistes depuis ce match contre la Turquie et cette défaite 2-3 à Berlin.
Ce qui est incroyable dans le bilan de l'Allemagne depuis le Mondial, il y a eu 10 matchs, il y a eu 5 défaites déjà. Et des défaites qui font tâche. Voilà, la Turquie, bah, mine de rien, normalement, l'Allemagne doit prendre le dessus. On ressent dans cette équipe une sorte de fragilité, et je crois que Nagelsmann a un petit peu insisté là-dessus. Mentalement, ces Allemands ne sont plus tueurs. Il y a beaucoup de doutes dans l'équipe. Dès que quelque chose ne tourne pas rond, bah, tout le monde regarde un peu ses chaussettes. C'est aussi ce qui est relevé oui. un petit peu en Allemagne.
Exactement. Et du coup, ça remet en cause dans la hiérarchie d'une équipe de football, ça remet en cause, au-delà de l'entraîneur, puisque celui-ci fait l'unanimité pour l'instant, on est content d'avoir confié les clés, d'avoir pris le risque d'un jeune entraîneur à peine quadragénaire, puisqu'il n'a pas encore 40 ans, ça remet en question d'abord, Cyril, le capitaine. Confiance à Gundogan par rapport à ses performances en club, évidemment avec Manchester City ça va très bien, puis il est un excellent joueur. Voilà, mais le problème c'est qu'en équipe nationale, il y a un gap, ouais. et ça on ne se l'explique pas. Ni lui, ni les observateurs, ni sans doute son entraîneur qui pourtant lui fait confiance. Donc c'est une première remise en question et il a souffert, il a beaucoup souffert contre la Turquie à Berlin, des dizaines de milliers de sifflets qui se sont déclenchés à son premier contact de balle et qui ont ensuite continué. Ça l'a quand même déstabilisé et ça remet évidemment en question son leadership, ça remet en question sa capacité à gérer, à être le leader d'une équipe nationale comme l'Allemagne.
Pourquoi lui plus qu'un autre sur les sifflets, David ?
Parce qu'on considère à tort, du côté du public turcophone et du public turc, on considère à tort, je dis à tort, j'insiste, vous allez comprendre pourquoi, qu'il a trahi la Turquie en choisissant l'option Allemagne. Sauf que Ilkay Gundogan joue certes sous le maillot de l'équipe nationale allemande, mais s'engage dans différents projets humanitaires, notamment avec la Turquie. Donc c'est difficile de lui reprocher de ne pas se sentir concerné par le destin du peuple turc. C'est ça qui est considéré comme injuste et très dur. Néanmoins, c'est une réalité. Il a été sifflé, l'équipe nationale aussi, et on s'aperçoit, Cyril, tu as raison de mettre le doigt sur cette fragilité psychologique, on s'aperçoit que l'équipe d'Allemagne regarde ses chaussettes quand ça ne va pas. Alors, il y avait en conférence de presse avant le match un certain Leroy Sané, ouais. et Leroy Sané a affirmé, Cyril, qu'il était prêt à prendre des responsabilités désormais, qu'il était un joueur qui avait pris de l'envergure, qu'il était un joueur qui désormais réussissait des matchs consécutifs avec de belles performances, sauf que lui, parmi d'autres, en équipe nationale, on voit qu'il a la même fragilité. Et on en est à réclamer le retour d'un Toni Kroos, figurez-vous. Ah alors, ouais, Toni Kroos n'est pas un ancêtre, c'est pas un ancêtre, mais ça veut dire quand même qu'on manque de leadership, clairement. Kimmich n'assume pas forcément, il n'est pas capitaine, donc il y a peut-être cette jalousie au milieu de terrain, qui sait, avec un Gundogan qui a pris le brassard. Mats Hummels n'est plus un titulaire en puissance, donc il ne peut pas non plus assumer cette responsabilité. Manuel Neuer pourrait éventuellement, mais il est trop tôt pour le rappeler. Et donc, il y a ce manque de leadership évident, et ça se voit effectivement contre la Turquie, cette fragilité, même si, peut-être qu'il faut en dire aussi Cyril un mot, offensivement, on garde un potentiel énorme avec cette équipe, il faut quand même le dire.
C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que fait Nagelsmann depuis son arrivée. Alors, il y a 3 petits matchs, donc ça va être un petit peu compliqué de tirer un bilan définitif. Il n'empêche, il a tenté quelque chose avec Kai Havertz arrière-gauche. Est-ce que ça a fonctionné déjà ?
Alors, ça a fonctionné 5 minutes très, très bien. Kai Havertz a ouvert le score. Kai Havertz a montré qu'il pouvait jouer effectivement dans le couloir. C'était une idée de défendre à 3,5, c'est-à-dire ouais. les 3 défenseurs assez classiques et un Havertz qui serait en phase défensive reculé et qui serait plus offensif sur les phases avec ouais. le ballon. Nagelsmann a le droit, on est d'accord en Allemagne là-dessus, a le droit de faire quelques expérimentations au début de son mandat, c'est compréhensible. Simplement, on avait retrouvé un peu de stabilité contre la France avec l'intérim Rudi Völler et toute proportion gardée dans la petite tournée américaine ouais. contre les États-Unis et le Mexique. Et là, on a reperdu cette stabilité. 3 buts encaissés. Et Kai Havertz, certes, a marqué, mais il est fautif aussi, bien involontairement, mais il est fautif sur le pénalty concédé en fin de partie qui donne la victoire à la Turquie. Il est présent dans la surface et il a un geste maladroit de défenseur. C'est une expérimentation. J'ai l'impression que Nagelsmann voudrait insister, mais je pense qu'il va y avoir une pression quand même autour de lui pour dire « Julian, on va revenir à des fondamentaux, à un 4-2-3-1 qui correspond bien, assez bien à l'Allemagne avec un avant-centre et des joueurs virevoltants autour et une défense à 4 pour stabiliser tout ça. » Je pense qu'il va être obligé là aussi de rationaliser. Il y a un autre point qu'il faut évoquer absolument, Cyril, qui est essentiel, c'est le milieu de terrain. On est d'accord en Allemagne pour dire que la paire de milieux défensifs Gundogan, Kimmich, ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont trop similaires les deux et qu'il faut donc intégrer à ce milieu-là soit un Goretzka qui est plus dur sur l'homme, qui est un peu plus défensif, soit un Pascal Gross qui a été appelé récemment et qui pourrait faire un petit peu un équilibre avec soit Gundogan, soit Kimmich, l'un ou l'autre. Si c'est Gundogan, capitaine, qui reste milieu de terrain, on imagine dès lors Kimmich arrière-droit. Okay. Mais vous le savez, là aussi, ça crée un problème puisque Kimmich ne veut plus trop jouer à ce poste-là. Que c'est fragile tout ça.
Ouais, c'est un petit peu ça la conclusion. Y a un match un peu brûlant qui se présente malgré tout mardi face à l'Autriche, face à des joueurs confirmés qui jouent en Premier League, qui jouent en Bundesliga, dont Nagelsmann se méfie. Est-ce que, en cas de nouvelle contre-performance, ça peut déjà tanguer très très sévère pour Nagelsmann ou, quoi qu'il arrive, on va aller à l'Euro avec ce sélectionneur-là, avec cette équipe-là? Et si d'aventure ça se passe mal à ce moment-là, on refera un bilan. Mais voilà, est-ce qu'on est déjà à un moment de crise similaire à ce qu'on a connu au moment de l'intronisation de Rudi Völler, un petit peu en panique?
Alors, surtout pas un moment de crise, parce qu'on va faire confiance à ce sélectionneur jusqu'à l'Euro avec l'espoir de réussir quelque chose de bien. On ne parle pas forcément de titre, on parle de demi-finale exactement comme c'était le cas en 2006 lorsque l'Allemagne a reçu le mondial. On est vraiment dans l'idée de créer un enthousiasme et c'est un entraîneur offensif qui peut favoriser cela. Mais on marche sur un fil, c'est vrai, contre l'Autriche. S'il y avait une défaite, s'il y avait un résultat morose, ça créerait des soucis et ce serait bien long jusqu'au mois de mars et jusqu'aux prochains matchs internationaux pour cette équipe. On a besoin de se rassurer encore, on a besoin de réussir quelque chose de bien contre l'Autriche, adversaire forcément piégeux, forcément compliqué parce que le petit voisin, entre guillemets, veut toujours réussir contre l'Allemagne. Donc c'est vraiment sur un fil et on ne peut souhaiter à Nagelsmann qu'un peu de répit et que son équipe réussisse soit à se stabiliser en encaissant pas de but, soit en s'imposant, au moins l'une de ces deux conditions pour avoir un peu de tranquillité jusqu'au mois de mars. C'est vraiment, vraiment fragile, répétons-le.
Et rendez-vous mardi soir pour connaître le résultat de ce match entre l'Allemagne et l'Autriche et voir un petit peu si la Mannschaft abordera 2024 de manière un petit peu plus apaisée, on l'espère pour elle. Merci beaucoup, mon cher David, pour ton efficacité très allemande, finalement, on peut le dire.
Merci, Cyril.
Nous, on va quitter l'Allemagne et on va désormais retrouver notre bonne vieille France. Nous voici donc en Ligue 1, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste. On pensait te laisser au repos, Elton, cette semaine, et puis l'actualité nous a rattrapés. Comment ça va ?
Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. En effet, le Stade Rennais va occuper un peu l'actualité, parce qu'il y a quand même eu une grande nouvelle avec le départ de Bruno Genesio. On avait dans l'idée en début de semaine dernière que le départ de Bruno Genesio était écarté. Et là, pour le coup, on a eu un coup de théâtre avec finalement son départ qu'il a provoqué de lui-même.
Alors justement, on va parler d'abord de Bruno Genesio en tant que tel, avant d'élargir un petit peu au Stade Rennais et au projet du club breton. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur le bilan de Bruno Genesio à Rennes finalement et l'image qu'il va laisser. C'est un entraîneur qui était arrivé avec l'étiquette qu'il avait construite du côté de l'Olympique Lyonnais, avec un entraîneur avec des limites. Finalement, il a permis à Rennes d'être trois fois européen, sixième, quatrième, quatrième. Il part avec un bilan de plus de 50% de victoires. Il a été élu entraîneur de l'année en 2021-2022. Comment tu juges le bilan de Bruno Genesio, tout simplement? Et où est-ce que tu le places aujourd'hui dans le classement un petit peu virtuel des entraîneurs français qui exercent au niveau professionnel?
Bah, de par ce qu'il a montré, c'est quand même un bilan qui est, entre guillemets, contrasté. C'est un billet qui est, un bilan, pardon, qui est contrasté parce que c'est vrai qu'il y a deux quatrièmes places de suite. Il a été nommé meilleur entraîneur de Ligue 1. Il a aussi le record de points avec le Stade Rennais. Donc, on doit le mettre tout en haut du classement parmi les entraîneurs français. D'autant plus que quand on écoute Arsène Wenger, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français. Donc, c'est raison de plus pour le mettre en avant. Mais c'est vrai que quand je parle de bilan contrasté, finalement, il y a un goût amer parce qu'on n'a pas vu Rennes en Ligue des Champions sous Bruno Genesio, alors qu'on pensait qu'il y avait une montée en puissance de ce club. Bon, ils étaient déjà présents lors de la saison 2020-2021, mais on pensait qu'avec Bruno Genesio, avec des investissements consentis, Rennes a quand même bien investi sur le marché des transferts, et bah, tout ça ferait que le Stade Rennais irait en Ligue des Champions. Et non seulement ils n'ont pas réussi à le faire, mais là, on a une saison qui était décevante, alors que aussi bien Bruno Genesio et Florian Maurice, en début de saison, te parlaient de la qualification en Ligue des Champions. Bruno Genesio, après le match retour face au Panathinaikos, avait expliqué, bah, c'était quand même prémonitoire qu'il n'était pas là pour jouer la 10e place. Finalement, il y a eu cette défaite face à l'Olympique Lyonnais, encore un symbole qui a acté la fin de Bruno Genesio.
Comment tu expliques que ça n'ait pas réussi à décoller finalement? Alors, on l'a dit, hein, des résultats quand même satisfaisants, la meilleure saison comptable de l'histoire du club, mais il a toujours manqué ce petit truc en plus qui aurait permis à Rennes de monter sur le podium. Et on a l'impression que le club a un peu du mal à se défaire de cette étiquette de loser qui s'était construit et qu'il avait fini par arracher en 2019 avec la Coupe de France. Pourquoi ça n'a pas été aussi haut que prévu?
C'est vrai qu'il y a des actes manqués pour le Stade Rennais. Je fais référence à la saison 2021-2022. Quand tu es engagé pour la course avec des champions, tu perds face à Nantes qui venait de remporter la Coupe de France. Ça fait désordre. La saison dernière, bon, tu joues un peu de malchance parce qu'il y a la variable Lens qui n'était pas forcément prévue dans le synopsis de la Ligue 1. Donc tout ça a contribué au fait que le Stade Rennais n'a pas réussi à obtenir un meilleur classement pour aller en Ligue des Champions. Mais il y a surtout un problème de régularité, parce que c'est vrai qu'on a évoqué les quatrièmes places, mais il faut aussi regarder le détail de ces quatrièmes places, à savoir que c'est souvent des runs en fin de saison qui sont quand même positifs. Je n'oublie pas que la saison dernière, entre le mois de janvier, enfin, ou plutôt entre le mois de février et fin avril, tu n'es pas en mesure d'enchaîner deux victoires de suite. Ouais. Et ça, ça fait quand même désordre quand tu es un candidat au podium, à savoir que la régularité est un élément capital pour avoir cet objectif. Donc, on a bien vu que du côté du Stade Rennais, oui, il y avait beaucoup plus de fulgurance que de régularité. Oui, Rennes était une équipe qui était globalement belle à voir, mais il faut être davantage compétitif. Et cette saison, non seulement tu n'étais pas beau à voir, mais tu n'as pas eu cette capacité à être compétitif. Et ça se retranscrit sur ton classement où on est quand même à 3 points du premier relégable.
J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du mercato. On a évoqué son nom, mais Florian Maurice a été aussi beaucoup critiqué en ce début de saison pour ce mercato qui a finalement pas renforcer le Stade Rennais, on va dire les choses comme elles sont. Il y a eu Matic, c'est vrai, qui apporte beaucoup de choses et beaucoup d'expérience à une troupe qui en manque un petit peu, évidemment. Mais malgré ça, le Stade Rennais semble moins fort que les saisons passées, ou en tout cas moins complet.
C'est une thématique qui est très importante pour moi, Cyril, parce que mettre seulement la faute sur Bruno Genesio, ce serait se tromper pour moi. Ce serait une erreur de perspective, parce que moi, je pense que les fautes sont quand même partagé. Oui, Bruno Genesio occupe une place centrale parce que c'est l'entraîneur, et je pense que la planification sportive rennaise depuis deux saisons pose question, notamment dans sa construction d'effectifs. Je veux dire par là, ta défense, et notamment ta défense centrale, ne capitalise pas notamment sur des éléments forts, des éléments réguliers qui puissent notamment asseoir l'assise défensive de cette équipe-là. Et ça joue sur le fait que tu n'as pas trouvé de charnière. Et ça, c'est quand même problématique dans une Ligue 1 où tu vois quand même l'exemple niçois, qui est quand même la meilleure défense d'Europe. Tu l'as vu la saison dernière avec le RC Lens qui pouvait capitaliser sur Medina, Danso, Gradit. Tu n'as pas l'équivalent du côté du Stade Rennais. Ouais. Et devant, parce que le but est quand même le meilleur entraîneur au monde, et bah t'as pas l'attaquant référencé. Ce qui fait désordre parce que tu as quand même investi plus de 50 millions d'euros sur Kalimuendo et Guiri. Ouais. Et moi, Cyril, pour moi, ce qui est quand même symbolique de la planification sportive qui fait défaut du côté du Stade Rennais, c'est que aussi bien Kalimuendo et Guiri ne font pas mieux que Gaëtan Laborde lors de la saison 2021-2022. Et ça, ça pose problème parce que quand tu achètes un neuf, l'avant-centre est quand même la vitrine, notamment de la santé financière, de la santé économique de ton club. Tu es en capacité justement de passer un cap. Ce que voulait faire Rennes avec Guiri, qui est quand même la recrue la plus onéreuse de l'histoire du Stade Rennais. Pour autant, on voit qu'offensivement, tu as des problèmes. Défensivement, tu as des problèmes. Et comme tu es fragile dans les deux surfaces, et bah, tu as un classement qui est en adéquation avec ces fragilités.
On a l'impression que Rennes a voulu un petit peu adopter le modèle lyonnais des années 2000, et ils s'en revendiquaient d'ailleurs, de se dire on prend des jeunes espoirs français qui évoluent dans des clubs plus petits. Je reprends l'exemple de cet été avec Blas et Le Fay, qui sont tous les deux de fantastiques joueurs. Mais ils ont un peu sauté l'étape d'avoir des cadres à chaque ligne, des joueurs qui rassurent, qui sont impactants. Alors, il y a Mandanda dans les cages, certes, mais pour le reste, tu l'as dit, il manque de leaders. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas peut-être le principal défaut de cette équipe qui ressemble aussi à l'OL de Bruno Genesio, parfois enthousiasmante, mais avec des carences dans la gestion des matchs qui est quand même problématique?
Ce qui est triste, c'est que c'était déjà le cheval de bataille de Bruno Genesio dès la saison dernière. Il avait déjà évoqué ce déficit d'expérience qui pouvait être rédhibitoire à certains moments clés de la saison, notamment au moment d'attaquer le sprint final. Tu sais très bien qu'il y a des jeunes joueurs qui sont très intéressants, et pour évoquer notamment Leonardo Jardim, qui avait été justement confronté à ce type de situation à Monaco, il parlait de joueurs de rendement immédiat et de joueurs d'avenir. Je pense que la balance du côté du Stade Rennais est un peu trop en faveur des joueurs d'avenir. Or, tu as besoin de capitaliser sur cette forme de régularité. Et quand tu es dans une crise, comme connaît actuellement le Stade Rennais, et ben forcément, ce n'est pas ces jeunes joueurs-là qui vont être en capacité justement de relever le niveau de cette équipe. Donc aujourd'hui, quand tu regardes le ranking des meilleurs joueurs rennais, et ben forcément, c'est plus compliqué parce qu'on voit par exemple un Benjamin Bourigeaud, on ne retrouve pas le Benjamin Bourigeaud de la saison 2021-2022. Mandanda qui essaye de sauver notamment ce qui est à sauver. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça reste très compliqué. Tu as perdu en qualité et tu as perdu surtout en termes d'expérience. Et la seule arrivée de Matic ne peut pas tout résoudre parce que Matic peut faire un énorme match contre le Panathinaikos à 10 contre 11. Et ça reste qu'un épiphénomène. On a surtout besoin que Matic soit accompagné parce que Matic, en plus, on parle d'un joueur qui arrive sur la fin de sa carrière. Il ne peut pas enchaîner tous les trois jours à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été un manque qui a été décelé depuis la saison dernière et qui n'a pas été corrigé. Et c'est vrai que ça pose question, surtout l'été où tu perds quand même ton capitaine à Marie Traoré. Donc, encore une fois, la planification sportive de Florian Maurice est à mettre justement, est à pointer du doigt. Et là, on parle d'un départ à venir. Et quand on parle d'un départ à venir, on est au 20 novembre.
Ouais.
Il doit y avoir un directeur sportif qui doit arriver. Mais après, tu as un mois pour te préparer sur un mercato où tu sais très bien qu'il y a des manques en défense centrale, voire offensivement.
Ouais.
Et ça, c'est une équation qui est quand même périlleuse pour le Stade Rennais, qui, je rappelle, n'est qu'à 3 points du premier relégable.
Alors justement, ma question suivante, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter tout simplement? Le Stade Rennais est 13e. Julien Stéphan qui va faire son retour, qui sort d'expérience un petit peu mitigée en dehors de Rennes. Voilà, comment tu vois la suite pour le Stade Rennais? Est-ce qu'à un moment, ils vont finir par trouver le bon rendement? Ou est-ce que, comme je te le demandais, faut s'inquiéter un petit peu pour les mois qui viennent?
Pour le coup, Stéphane va jouer un peu de malchance parce que le calendrier à venir du Stade Rennais est quand même costaud. Je veux dire, Reims, qui n'est pas évident.
Ouais.
Et même si les Parisiens ont gagné 3-0, ils peuvent en témoigner parce que Donnarumma fait un match extraordinaire. Il y a Marseille qui sera aussi en quête de rachat parce qu'eux aussi connaissent un début de saison qui est aussi compliqué.
Ouais.
Et Monaco qui est sur le podium de Ligue 1. Donc aujourd'hui, rien n'incite à l'optimisme du côté du Stade Rennais quant à cette capacité à avoir un rebond en Ligue 1. En Ligue Europa, c'est autre chose, mais du côté de la Ligue 1, sur le court terme, je ne vois pas le Stade Rennais se redresser. Je pense qu'il faudra attendre peut-être le début d'année 2024 pour voir un vrai redressement du côté du Stade Rennais, mais il y a un besoin de points. Et ça, c'est quand bien même ce soit à Reims, quand bien même ce soit à Marseille, le Stade Rennais, parce qu'il connaît un début de saison compliqué, doit quand même redresser cette situation qui est quand même très urgente.
Eh ben merci beaucoup Elton pour ce point complet sur le Stade Rennais qui aura donc animé notre trêve internationale. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de notre Ligue 1, notamment des clubs qui repasseront par la case Europe dès la semaine d'après. Et nous, on va tourner la page française pour aller en Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par l'Espagne. On accueille Ana Caro, notre spécialiste Liga et football espagnol. Comment ça va, Ana?
Ça va très bien, toi?
Écoute, ça va. On va parler de l'actu chaude qui secoue l'Espagne ce lundi matin. C'est la blessure grave de Gavi. Le vestiaire ressemblait à une veillée funeste. Voilà ce qui s'est dit dimanche soir en Espagne. Ce lundi matin, toute la presse espagnole est un petit peu vent debout, finalement, contre la décision de faire jouer le jeune Barcelonais qui pourrait potentiellement manquer jusqu'à l'Euro. Pourquoi Gavi a-t-il joué ce match?
Eh bien, il a expliqué Luis de la Fuente avant le match contre la Géorgie. La question lui avait été posée de savoir s'il ferait reposer ou non les cadres, ouais. Sachant qu'il l'avait déjà fait plus ou moins contre Chypre, parce que Gavi avait déjà joué le match contre Chypre. Ouais. Et il avait répondu « Les bons joueurs doivent jouer tous les matchs. » Et s'ils sont bons, c'est qu'ils sont capables d'encaisser tous ces matchs-là. Ouais. Et il avait dit, en prenant... particulièrement l'exemple de Gavi, en disant que lui, c'était un hyperactif, qu'il avait envie de jouer tous les matchs, etc. Mais ça reste un jeune joueur. Ouais. Il a tout juste 18 ans, donc évidemment, il a envie de jouer tous les matchs, comme n'importe quel joueur, comme Pedri, il y a 2 ans, quand ouais. il avait enchaîné Euro et JO. Est-ce qu'il devait jouer ce match? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui dans toute la presse espagnole. C'est vraiment, en tout cas, ce que pointent du doigt les médias catalans, parce que la presse madrilène est encore un peu... sympa, on va dire, avec le sélectionneur espagnol. Mais du côté de la presse catalane, ça fait beaucoup. Ouais. Et ça fait beaucoup parce qu'il y a des antécédents, parce qu'il y a Pedri, ouais. qui, lui, avait enchaîné donc Euro, JO. Et là, à l'époque, le sélectionneur de la sélection olympique, c'était déjà Luis de la Fuente. Ouais. Donc c'était lui qui avait appelé Pedri malgré... Alors que c'était déjà le joueur qui avait joué le plus de minutes dans toute l'Europe, alors ouais. qu'il avait 18 ans. Et il y a aussi le cas de Lamine Yamal, à la dernière trêve, qui devait être convoqué, qui avait une blessure... Et il a quand même été convoqué. Il ouais. a fallu qu'il fasse le trajet jusqu'à Madrid pour prouver sa blessure. Et finalement, il est rentré chez lui, alors qu'il aurait pu gagner ce jour en ouais. récupération, en soins, etc. Donc, on va dire que c'est cette accumulation-là qui ne passe pas du tout vis-à-vis du Barça.
Le procès et en tout cas la discorde entre les clubs et les sélections, c'est quelque chose de vieux comme le monde en football. Mais on a quand même l'impression de ce que tu dis là, c'est que les grands clubs espagnols sont de plus en plus réfractaires à céder aux demandes de la fédération, qui est en plus affaiblie par tous les soubresauts dont on a déjà beaucoup parlé dans Tour d'Europe. Est-ce qu'il peut y avoir une rupture à un moment, même si les règles de la FIFA sont claires et que les clubs ne peuvent pas s'opposer à la sélection de leurs joueurs, est-ce qu'à un moment, le Barça et le Real, qui sont quand même très puissants, peuvent changer un petit peu les règles?
Alors, il faut savoir que les relations déjà entre les deux grands clubs là, et la fédération sont sur un courant alternatif, on va dire.
Okay.
Côté Barça, le Barça a clairement pris position, par exemple, pour ses joueuses au moment du conflit avec la fédération ouais. et donc s'oppose globalement également d'ailleurs à Albert Luque. C'est lui qui a ramené ouais. Gavi sur place à Barcelone. Sauf qu'il est aussi impliqué dans l'affaire avec Gini Hermoso. Il est accusé d'avoir fait pression sur la joueuse pour qu'elle témoigne en faveur de son entraîneur et de son président et qu'elle dise en gros que consenti ce baiser. Donc en fait il y a déjà tout ce passif du côté des féminines avec le Barça. Avec le Real c'est un peu différent parce que il y a des cadres qui sont au sein de la fédération qui étaient aussi des anciens du Real Madrid, donc on va dire que ça aide dans les relations. Par contre, c'est sûr que sur ces blessures-là, on voit même le Barça souvent publier des communiqués médicaux à 2 jours de la liste, par exemple. Faire en sorte que les joueurs n'enchaînent pas. Pedri, par exemple, n'était pas appelé là. Ouais. Et ça a été un accord avec la fédération de dire « Il revient tout juste de blessure, le sélectionnez ouais. pas. » Mais c'est quelque chose qui est encore très compliqué en Espagne parce qu'il y a... encore plus presque qu'en France, cette idée du sacro-saint maillot de la sélection, etc. Et que celui qui refuse peut vraiment
mettre sa carrière internationale en péril. Quoi.
Vraiment, et être lynché dans les médias, etc. Donc c'est très compliqué de refuser la sélection espagnole. On l'a vu même d'ailleurs chez les filles, parce qu'elles, c'est pareil, les filles à l'époque, elles accusaient la fédération de se faire trop jouer les joueuses, ouais. et elles revenaient blessées de sélection. Là, on vit la même chose avec Gavi. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que, contrairement à la France, il y a un règlement différent sur la sélection. Il y a interdiction pour les clubs de bloquer leurs joueurs pour l'équipe nationale. Et peu importe si c'est une date FIFA ou non.
Okay.
Donc ça veut dire c'est pour ça que Pedri et d'autres joueurs avaient enchaîné, et Pau Torres, etc., avaient enchaîné l'Euro et les JO. Okay. Là où nous, en France, tous les clubs avaient bloqué les départs des joueurs de Ligue 1 pour jouer les JO.
Et ça avait joué
avec une équipe pas forcément terrible, alors que l'Espagne avait une très bonne équipe. Ouais. Justement parce qu'il y a ce règlement particulier de la Fédération espagnole qui oblige tous les joueurs à jouer à partir du moment où ils sont sélectionnés. Et ce qui rend difficile justement de calmer ce rythme-là, d'autant quand on a des sélectionneurs qui disent que les joueurs doivent jouer tous les matchs.
Toi qui nous chroniques la Liga chaque semaine, Anna, on va avoir dans les semaines qui viennent un tout petit peu moins de stars alignées sur les terrains, parce que la blessure de Gavi, elle s'ajoute à celle de Eduardo Camavinga en début de rassemblement avec les Bleus. Tchouaméni est aussi absent, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Pedri revient tout juste de blessure. Vinicius est blessé également. Pourquoi ça touche spécifiquement les clubs espagnols? C'est parce que ils ont peut-être moins fait tourner aussi auparavant, parce qu'ils ont des effectifs un peu plus courts que par le passé. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Pourquoi c'est davantage le Barça et le Real qui sont touchés par ces grosses blessures-là?
Bah, le Barça et le Real, eux, ont également été touchés par des blessures, mais en tout début de saison.
Ouais.
Et ont été touchés par des blessures chez eux. Par exemple, Frankie de Jong, Pedri, et donc les joueurs qui les remplacent, Gavi, par exemple, a joué tous les matchs.
Ouais, okay.
Camavinga a été amené à beaucoup jouer aussi en raison de la blessure de Tchouaméni. Donc en fait, c'est tout ça, c'est des enchaînements de blessures qui font que aujourd'hui, on a des joueurs, des jeunes joueurs d'ailleurs, qui sont obligés d'énormément jouer. Vinicius, par exemple, lui, c'est la seule certitude en attaque du Real cette saison. Rodrigo, il fait un bon début de saison, mais pour autant, Vinicius, c'est la star. Il n'y a plus Benzema, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant en permanence, etc. Et c'est Vinicius. Et Vinicius, il n'a pas le temps de se reposer. Donc en fait, les effectifs de base de ces deux clubs de Liga sont pas forcément plus courts que dans d'autres clubs. C'est juste que ils commencent la saison avec déjà pas mal de blessés et que donc les Gavi, Vinicius, eux ont dû enchaîner pour compenser ces blessés-là.
Bon, on suivra si ça a une répercussion en tout cas sur les résultats de ces deux géants espagnols. On va passer plutôt ces deux géants espagnols s'affrontaient malgré tout ce week-end puisqu'il y avait un classico féminin, une belle manita du Barça face au Real. J'aimerais qu'on parle du football espagnol, du football féminin espagnol. On a beaucoup parlé longuement, malheureusement, des polémiques suite au titre mondial, mais malgré tout, il y a un essor du foot féminin en Espagne qui est comparable à ce qui se passe un petit peu en Angleterre, mais qui est beaucoup moins visible en France. C'était samedi ou dimanche le match, pardon.
C'est dimanche midi.
C'était dimanche midi, voilà. Donc en plus, l'horaire était piégeux. Il y avait plus de 38 000 personnes qui se réunissaient pour voir ce classico féminin. On en est encore très très loin en France. Comment tu expliques qu'il y a un tel décalage alors que finalement les deux pays sont quand même assez rapprochés?
Et c'est assez étonnant, d'autant que la France a commencé à suivre et à promouvoir le foot féminin plutôt avant l'Espagne. Donc il y a beaucoup d'écarts niveau culturel entre le football féminin en France et le football féminin espagnol. En Espagne, il y a ce côté club déjà qui fait que si tu es supporter du Barça, tu es aussi supporter du Barça féminin, du Barça handball, du Barça basket, etc. etc. Et d'ailleurs, au Real Madrid, les ultras qui sont dans les tribunes pour les garçons au foot sont aussi souvent dans les tribunes pour le basket.
Okay.
Alors ça se répercute un peu moins chez les filles pour l'instant.
Okay.
Donc, mais du côté du Barça, par exemple, il y a énormément d'investissements sur cette équipe féminine. Depuis 2015, l'équipe est professionnelle. Mmh. C'est la première équipe professionnelle en Espagne. Il y a beaucoup de communication qui est faite. Beaucoup, beaucoup même.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a du coup ce côté où si le Barça masculin ne joue pas de ce week-end-là dans le coin, à Barcelone ou dans le coin, on va aller voir les filles.
Okay.
Et il n'y a pas de distance entre moi je supporte que les hommes, moi je supporte que les femmes, etc. Même si d'ailleurs maintenant il commence à y avoir une espèce de groupe de supporters qui n'est affecté que aux filles et qui est d'ailleurs essentiellement féminin. Donc les tribunes quand même sont, le public en tribune est quand même très différent, mais on a tout ce travail de communication, et puis c'est la culture foot aussi qui est différente en Espagne. En France, c'est vrai que la France avait énormément d'avance sur le foot féminin en tant que pratique sportive, sport pur, etc. Mais sur l'aspect marketing, développement, personnes en tribune, etc., elle a pris énormément de retard vis-à-vis de pays comme l'Angleterre et l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne, le championnat est professionnel depuis deux saisons et trois ans. Et en France, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, il y a encore, c'est assez impressionnant parce que le football féminin espagnol a progressé énormément d'un coup, mais parce qu'il y avait beaucoup de joueuses aussi.
Ouais.
Il y a plus de joueuses en Espagne qu'il y a de joueuses, enfin de petites filles, on parle de joueuses de
à la formation
au niveau amateur. Il y en a beaucoup plus en Espagne parce que c'est plus courant de voir une fille avec un ballon en Espagne, alors qu'en France, on peut encore être stigmatisé.
L'échéance pour la France, pour avoir ces audiences-là, pour avoir ces affluences-là, c'est quoi? Est-ce que d'ici 3 ans, c'est facilement compensable? Ou est-ce que, comme tu parles de culture club et de culture foot, c'est un gap qui est un petit peu difficile à effacer et qu'il faudra peut-être attendre 10 ans avant d'avoir 40 000 personnes dans un stade pour un grand match de foot féminin hors équipe de France, j'entends. Comment tu estimes ce laps de temps nécessaire?
Là, on voit en France qu'il y a une sorte d'essor. Parce que là, par exemple, l'équipe de France féminine va jouer contre l'Autriche à la fin du mois à Rennes. Ouais. Et le stade est plein depuis 2 semaines.
Okay.
Donc, il y a des points positifs. Mais ces points positifs, ils sont souvent rattachés à l'équipe de France, ouais, aux bonnes performances, etc. Clubs, ouais. Et quand on voit que Lyon a gagné 8 fois la Ligue des Champions et que quand elle joue un match dans les grands stades, c'est pas plein, c'est pas du tout positif.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de travail à faire de la part des clubs. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple du Barça, très tôt, le Barça féminin a joué au Camp Nou, dans des Camp Nou pleins. En France, on a du mal à faire jouer les féminines dans les clubs, dans les grands stades, parce que souvent c'est dans des petits stades. Bah, par exemple, si on prend le PSG, il faut aller très loin pour aller voir les féminines. Ce week-end, elles jouaient contre Fleury, c'était un derby parisien, c'était le deuxième du championnat contre le quatrième, et pourtant c'était à 1h15 de Paris. Okay. Donc il faut être très motivé finalement pour aller les voir. Donc il y a aussi un travail de la part des clubs à faire pour qu'il y ait davantage de personnes dans les stades et pour que les féminines soient à peu près mises au même niveau que les hommes. Je pense que, par exemple, la gratuité des matchs de D1 qui a été mise en place par le Paris FC et qui, en plus, est une très bonne équipe qui s'est qualifiée pour la première fois en tant que Paris FC en Ligue des Champions, ça montre bien qu'il y a du travail qui est fait, en tout cas. Mais au niveau global, au niveau de la Ligue, c'est encore compliqué. Mais si on veut se rassurer, c'est encore compliqué au niveau de la Ligue, côté espagnol aussi.
Okay.
L'essor, il vient beaucoup plus des clubs qui, eux, veulent...
C'est les entités en elles-mêmes.
Exactement, les entités dirigeantes ont pas force, sont... ouais, pas forcément, font pas totalement leur travail, on va dire. Okay. Ça vient beaucoup des clubs, et je pense qu'en France, ça devra venir des clubs aussi, puisqu'on a vu, en tout cas en Espagne, c'est venu des clubs, les révolutions sont venues aussi des joueuses.
Ouais.
En France, on a peu de joueuses qui prennent position. En Espagne, on l'a vu, pas vraiment le cas. Ça viendra. Mais par contre, c'est sûr que fixer un laps de temps et se dire quand est-ce que ce sera plein, ça paraît compliqué, parce que si on parle du Real Madrid, qui est une bonne équipe, qui est deuxième de Liga et qui a, même si elle a perdu 5-0 hier, ils ont toujours du mal. Les tribunes sont... Il y a 2000 spectateurs maximum. Absolument. Et parce que, justement, les filles jouent très souvent sur le stade de la réserve.
Ouais,
okay. La tribune d'en face n'est pas ouverte, etc. Donc, ça vient vraiment des clubs.
Bah voilà pour le long chemin qui attend le football féminin français. Merci beaucoup, Anna. Évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler du retour des championnats, mais aussi de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.